Après les trois coups, le rideau s'ouvre. Les comédiens sont là, tapis dans l'ombre. Tous en scène, l'émission de Prune sur l'histoire du théâtre. Rencontre avec un auteur, extrait de pièces, interview, clin d'œil de la comtesse Rostropovitch, actualité de la scène nantaise. Anna vous entraîne chaque deuxième samedi du mois, de 12h à 13h dans les coulisses des théâtres d'ici et d'ailleurs, sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire.
Bonsoir, on est ensemble pendant une heure dans Tous en scène, l'émission de Prune sur l'histoire du théâtre. Tous en scène, c'est une heure pour découvrir un dramaturge phare de l'histoire du théâtre à travers l'une de ses pièces. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à Albert Camus et sa pièce « Le malentendu », jouée pour la première fois le 24 juin 1944 au Théâtre des Mathurins à Paris, situé dans le 8e arrondissement, dans une mise en scène de Marcel Héran, metteur en scène et comédien que l'on connaît au cinéma pour les rôles de méchants qu'il a pu interpréter, notamment celui du poète anarchisant et truand Pierre-François Lassner dans « Les enfants du paradis », film de 1945 de Marcel Carnet. Et, bien évidemment, qui joue également dans « Le malentendu » et interprète le personnage de Jean. Tous en scène, ce sont aussi trois rubriques encadrant la pièce choisie. Pour débuter l'émission, un survol biographique d'Albert Camus, puis aujourd'hui une interview d'Éric Chartier, comédien et passeur de textes issu de notre patrimoine littéraire français. Ensuite, une chronique légèrement décalée à travers le clin d'œil de la comtesse Rostropovitch, scande la pièce choisie. Enfin, une ouverture sur l'actualité de la scène nantaise permet de terminer cette parenthèse théâtrale du deuxième samedi de chaque mois de 12h à 13h. Tous en scène, c'est donc parti, avec comme première rubrique l'éclairage biographique.
Éclairage biographique dans Tous en scène sur Prune 92 FM en compagnie d'Anna.
Albert Camus est né le 7 novembre 1913 à Mondovi, rebaptisé Dréhan après la période coloniale et situé à une trentaine de kilomètres de la Méditerranée, au nord-est de l'Algérie. Il meurt le 4 janvier 1960, victime d'un accident de voiture sur une route de Lyon, non loin de Villeblevin, entre Fontainebleau et Sens. Son ami Michel Gallimard, qui était au volant ce jour-là, succombe à ses blessures à l'hôpital, laissant sa femme et sa fille elles-mêmes présentes dans le véhicule, privées de celui qu'elles aimaient. Ironie du sort qui s'acharne, ce jour-là, Albert Camus a modifié son projet de retour sur Paris, après des vacances de fin d'année passées dans sa maison de Lourmarin, à 70 km au nord de Marseille. Il a délaissé le train, comme en témoigne le billet retrouvé dans ses bagages pour l'automobile. Serait-ce à dire que l'on ne peut échapper au destin qui nous lie à notre passage ici-bas? Il laisse orphelin son manuscrit du premier homme, inachevé. 56 ans pour être au monde et peu de temps pour dire son incompréhension face à l'absurdité de la condition humaine. Son essai, Le mythe de Sisyphe, sorti en 1942, en témoigne et propose pour pallier cette condition d'opter pour la révolte, la liberté et la passion. Dans le fameux livre « La mythologie » d'Edith Hamilton, sorti en 1940, l'auteur retrace l'histoire de Sisyphe en ces termes. Il était roi de Corinthe. Un jour, il aperçut un aigle immense, plus grand et plus beau qu'aucun oiseau mortel qui emportait une jeune fille vers une île voisine. Peu après, le dieu fleuve, Asopos, vint lui dire que sa fille, Égine, avait été enlevée et qu'il soupçonnait Zeus d'être l'auteur de ce rapt. Il supplia Sisyphe de l'aider à retrouver son enfant. Le roi lui raconta alors ce qu'il avait vu et par là s'attira la colère de Zeus. Précipité dans le Hadès, c'est-à-dire les enfers, il fut condamné à rouler sans cesse une grosse roche jusqu'au haut d'une montagne d'où elle redescend aussitôt. Sisyphe ne put aider Asopos. Le dieu fleuve parvint bien jusqu'à l'île, mais Zeus l'en repoussa au moyen de son foudre. L'île fut dès lors appelée Égine, en l'honneur de la jeune fille dont le fils Éaque fut le grand-père d'Achille, lui-même parfois nommé Éacide ou descendant d'Éaque. J'ai pris le temps de vous rappeler ce contexte mythologique dans lequel s'inscrit la réflexion de Camus dans cet essai éponyme pour que vous compreniez bien en quoi l'absurdité est au cœur de ce mythe. Sisyphe est témoin malgré lui. Il se trouve là au moment où Zeus, déguisé en aigle, n'oublions pas que pour parvenir à ses fins amoureuses, Zeus est toujours capable des subterfuges les plus fabuleux. Sisyphe est donc témoin d'une situation de rapt et il veut aider le père dont la fille en est la victime. C'est donc pour s'être octroyé le droit de témoigner de ce qu'il a vu afin d'aider son semblable qu'il va se trouver esclave de sa condition. Privation de ses libertés et condamnation à l'éternelle peine en roulant une roche en haut d'une montagne et en regardant impassible celle-ci revenir éternellement à sa place initiale. Voilà ce qui attend Sisyphe et tous ceux qui refusent de se taire, qui pensent que le témoignage de ce que l'on a vu prévaut sur le silence. Albert Camus est de ceux qui prennent la parole. Son engagement a été profond, impavide, sans faille durant tout son passage ici-bas. On cite souvent, lorsque l'on parle d'Albert Camus, Les premiers mots de l'étranger, roman sorti en 1942.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas.
Je vous propose de réécouter les dernières lignes de ce roman pour les mettre en perspective avec les passages du malentendu qui suivront.
Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi, à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé. Pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prête à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir, devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux. Et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine.
Obtenant le prix Nobel de littérature en 1957, il termine une conférence sous le titre « L'artiste et son temps », prononcée le 14 décembre de la même année, en ces termes.
Je crois que l'espoir est suscité, ranimé, entretenu, par des millions de solitaires dont les actions et les œuvres, chaque jour, nient les frontières et les plus grossières apparences de l'histoire, pour faire resplendir fugitivement la vérité toujours menacée que chacun, sur ses souffrances et sur ses joies, élève pour tous. Voici venu le temps de la pièce choisie sur Prune 92 FM et en DAP+ sur Saint-Nazaire, en compagnie d'Anna pour l'émission « Tous en scène ».
Dans la pièce, le malentendu qui appartient à cette période que l'on appelle chez Camus le cycle de l'absurde et dont la première représentation date du 24 juin 1944, Albert Camus parle bien d'un malentendu qui naît de l'incapacité à dire la vérité, à témoigner de ce que l'on est devenu, à accepter de se faire reconnaître par les siens et surtout à reconnaître ses torts. Il est coupable, celui qui s'octroie le droit de tout quitter pour revenir des années plus tard, tel l'enfant prodigue aux bras chargés de cadeaux inutiles aux yeux de ceux et celles qui ont souffert de l'absence de l'aimé. Le tragique est là, dans cette figure de l'exilé. Jean, fils et frère, aimé par ces deux femmes qu'il a abandonnées pour partir faire fortune, revient et n'est pas reconnu. Cela va conduire les deux femmes à le tuer pour lui voler sa fortune. La pièce commence ainsi. Scène première. Midi, la salle commune de l'auberge. Elle est propre et claire. Tout y est net. Amer. Il reviendra. Martha. Il te l'a dit ? Amer. Oui, quand tu es sortie. Martha. Il reviendra seul ? Amer. Je ne sais pas. Martha. Est-il riche ? La mère. Il ne s'est pas inquiété du prix. Martha. S'il est riche, tant mieux, mais il faut aussi qu'il soit seul. La mère, avec lassitude. Seul et riche. Oui. Et alors nous devrons recommencer. Martha. Nous recommencerons, en effet. Mais nous serons payés de notre peine. Un silence. Martha regarde sa mère. Mère, Vous êtes singulière. Je vous reconnais mal depuis quelque temps. La mère. Je suis fatiguée, ma fille. Rien de plus. Je voudrais me reposer. Martha. Je puis prendre sur moi ce qui vous reste encore à faire dans la maison. Vous aurez ainsi toutes vos journées. La mère. Ce n'est pas exactement de ce repos que je parle. Non, c'est un rêve de vieille femme. J'aspire seulement à la paix, à un peu d'abandon. Elle rit faiblement. Cela est stupide à dire, Martha, mais il y a des soirs où je me sentirais presque des goûts de religion. Martha, vous n'êtes pas si vieille, ma mère, qu'il faille en venir là. Vous avez mieux à faire. La mère, tu sais bien que je plaisante, mais quoi? À la fin d'une vie, on peut bien se laisser aller. On ne peut pas toujours se raidir et se durcir comme tu le fais, Martha. Ce n'est pas de ton âge non plus. Et je connais bien des filles nées la même année que toi qui ne songent qu'à des folies. Martha. Leurs folies ne sont rien auprès des nôtres, vous le savez. La mère. Laissons cela. Martha, lentement. On dirait qu'il est maintenant des mots qui vous brûlent la bouche. La mère. Qu'est-ce que cela peut te faire si je ne recule pas devant les actes? Mais qu'importe. Je voulais seulement dire que j'aimerais quelquefois te voir sourire. Martha. Cela m'arrive, je vous le jure. La mère. Je ne t'ai jamais vue ainsi. Martha. C'est que je souris dans ma chambre aux heures où je suis seule. La mère, la regardant attentivement. Quel dur visage est le tien, Martha. Martha s'approchant et avec calme. Ne l'aimez-vous donc pas? La mère, la regardant toujours après un silence. « Je crois que oui, pourtant. » Martha, avec agitation. « Ah, mère, quand nous aurons amassé beaucoup d'argent et que nous pourrons quitter ces terres sans horizon, quand nous laisserons derrière nous cette auberge et cette ville pluvieuse et que nous oublierons ce pays d'ombre, le jour où nous serons enfin devant la mer dont j'ai tant rêvé, ce jour-là, vous me verrez sourire. Mais il faut beaucoup d'argent pour vivre devant la mer. » C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur des mots. C'est pour cela qu'il faut s'occuper de celui qui doit venir. S'il est suffisamment riche, ma liberté commencera peut-être avec lui. Vous a-t-il parlé longuement, mère? La mère. Non. Deux phrases en tout. Martha. De quel air vous a-t-il demandé sa chambre? La mère. Je ne sais pas, je vois mal et je l'ai mal regardé. Je sais par expérience qu'il vaut mieux ne pas les regarder. Il est plus facile de tuer ce qu'on ne connaît pas. Un temps. Réjouis-toi. Je n'ai pas peur des mots maintenant. Martha. C'est mieux ainsi. Je n'aime pas les allusions. Le crime est le crime. Il faut savoir ce que l'on veut. Et il me semble que vous le saviez tout à l'heure, puisque vous y avez pensé en répondant aux voyageurs. La mère. Je n'y ai pas pensé, j'ai répondu par habitude. Martha. L'habitude? Vous le savez, pourtant, les occasions ont été rares. La mère. Sans doute, mais l'habitude commence au second crime. Au premier, rien ne commence, c'est quelque chose qui finit. Et puis, si les occasions ont été rares, elles se sont étendues sur beaucoup d'années et l'habitude s'est fortifiée du souvenir. Oui, c'est bien l'habitude qui m'a poussée à répondre, qui m'a avertie de ne pas regarder cet homme et assurée qu'il avait le visage d'une victime. Martha. Mère, il faudra le tuer. La mère plus bas. Sans doute, il faudra le tuer. Les deux femmes mettent au point leur stratagème et échangent sur leur acte futur en lui donnant un caractère dérisoire comme si elles délivraient leur victime en leur donnant la mort. Arrivent alors Jean et sa femme Maria, qui ne se doutent nullement du sort qui les attend, même si Maria semble présager un malheur à venir. Acte 1, scène 3. Entre Maria, Jean se retourne brusquement vers elle.
Tu m'as suivi ?
Pardonne-moi, je ne pouvais pas. Je partirai peut-être tout à l'heure, mais laisse-moi voir l'endroit où je te laisse.
On peut venir et ce que je veux faire ne sera plus possible.
Donne-nous au moins cette chance que quelqu'un vienne et que je te fasse reconnaître malgré toi. C'est ici ?
Oui, c'est ici. J'ai pris cette porte il y a 20 ans. Ma sœur était une petite fille. Elle jouait dans ce coin. Ma mère n'est pas venue m'embrasser et je croyais alors que cela m'était égal.
Jean, je ne puis croire qu'elle ne t'ait pas reconnu tout à l'heure. Une mère reconnaît toujours son fils.
Il y a 20 ans qu'elle ne m'a vu. J'étais adolescent, presque un jeune garçon. Ma mère a vieilli, sa vue a baissé. C'est à peine si moi-même je l'ai reconnue.
Je sais. Tu es entré et tu as dit « Bonjour ». Tu t'es assis, tu ne reconnaissais rien.
Ma mémoire n'était pas juste. Elles m'ont accueilli sans un mot. Elles m'ont servi la bière que je demandais. Elles me regardaient, elles ne me voyaient pas. Tout était plus difficile que je ne l'avais cru.
Tu sais bien que ce n'est pas difficile et qu'il suffisait de parler. Dans ces cas-là, on dit « c'est moi » et tout rentre dans l'ordre.
Oui, mais j'étais plein d'imagination et moi qui attendais un peu le repas du prodigue, on m'a donné de la bière contre mon argent. J'étais ému, je n'ai pas pu parler.
Il aurait suffi d'un mot.
Je ne l'ai pas trouvé. Mais quoi ? Je ne suis pas si pressé, je suis venu ici apporter ma fortune et, si je le puis, du bonheur. Quand j'ai appris la mort de mon père, j'ai compris que j'avais des responsabilités envers L2. Et l'ayant compris, je fais ce qu'il faut. Mais je suppose que ce n'est pas si facile qu'on le dit de rentrer chez soi et qu'il faut un peu de temps pour faire un fils d'un étranger.
Mais pourquoi n'avoir pas annoncé ton arrivée ? Il y a des cas où l'on est bien obligé de faire comme tout le monde. Quand on veut être reconnu, on se nomme, c'est l'évidence même. Et on finit par tout brouiller en prenant l'air de ce qu'on n'est pas. Comment ne serais-tu pas traité en étranger dans une maison où tu te présentes comme un étranger ? Non, non, tout cela n'est pas sain.
Allons, Maria, ce n'est pas si grave. Et puis quoi ? Cela sert mes projets. Je vais profiter de l'occasion, les voir un peu de l'extérieur. J'apercevrai mieux ce qui les rendrait heureuses. Ensuite, j'inventerai les moyens de me faire reconnaître. Il suffit en somme de trouver ces mots.
Il n'y a qu'un seul moyen, c'est de faire ce que ferait le premier venu, de dire « me voilà » et c'est de laisser parler son cœur.
Le cœur n'est pas si simple.
Mais il n'use que de simples mots et ce n'était pas bien difficile de dire « je suis votre fils, voici ma femme, j'ai vécu avec elle dans un pays que nous aimions, devant la mer et le soleil, mais je n'étais pas assez heureux et aujourd'hui j'ai besoin de vous. »
Ne sois pas injuste, Maria, je n'ai pas besoin d'elle, mais j'ai compris qu'elle devait avoir besoin de moi et qu'un homme n'était jamais seul.
Ah, peut-être as-tu raison, je te demande pardon. Mais je me méfie de tout depuis que je suis entrée dans ce pays où je cherche en vain un visage heureux. Cette Europe est si triste. Depuis que nous sommes arrivés, je ne t'ai plus entendu rire et moi je deviens soupçonneuse. Oh, pourquoi m'avoir fait quitter mon pays ? Partons, Jean. Nous ne trouverons pas le bonheur ici.
Ce n'est pas le bonheur que nous sommes venus chercher. Le bonheur, nous l'avons.
Mais pourquoi ne pas s'en contenter ?
Le bonheur n'est pas tout et les hommes ont leur devoir. Le mien est de retrouver ma mère, une patrie. On vient. Va-t'en, Maria, je t'en prie.
Pas comme cela, ce n'est pas possible.
Mets-toi là.
Maria ne peut se résoudre à quitter, ne serait-ce qu'une nuit, celui qu'elle aime. Et elle s'y résout pourtant, la mort dans l'âme. Maria, alors, adieu. Et que mon amour te protège, mais vois comme je suis démunie. Tu pars à la découverte et tu me laisses dans l'attente. Étrange découverte que cette mort qui l'attend. L'homicide conclu, les deux femmes découvrent la véritable identité de celui qu'elles viennent de mettre à mort en lui proposant un breuvage empoisonné. La mère sombre alors dans le remords et décide de mettre fin à ses jours, tandis que la sœur affirme qu'elle aurait tué Jean, même si elle l'avait reconnu. Les deux femmes se séparent et Martha, celle qui se ressent exilée dans son propre pays, dans un long monologue, affirme sa haine contre ce monde dans lequel elle ne se reconnaît plus et avec lequel elle n'arrive pas à se réconcilier. Acte 3, scène 2. Martha court vers la porte, la ferme brutalement, se colle contre elle. Elle éclate en cris sauvages. Non, je n'avais pas à veiller sur mon frère. Et pourtant, me voilà exilée dans mon propre pays. Ma mère elle-même m'a rejetée. Mais je n'avais pas à veiller sur mon frère. Ceci est l'injustice qu'on fait à l'innocence. Le voilà qui a obtenu maintenant ce qu'il voulait. Tandis que je reste solitaire, loin de la mer dont j'avais soif. Oh, je le hais. Toute ma vie s'est passée dans l'attente de cette vague qui m'emporterait et je sais qu'elle ne viendra plus. Il me faut demeurer avec, à ma droite et à ma gauche, devant et derrière moi, une foule de peuples et de nations, de plaines et de montagnes, qui arrêtent le vent de la mer et dont les jacassements et les murmures étouffent son appel répété. D'autres ont plus de chance. Il est des lieux pourtant éloignés de la mer où le vent du soir, parfois, apporte une odeur d'algues. Il y parle de plages humides, toutes sonores du cri des mouettes ou de grèves dorées, dans des soirs sans limite. Mais le vent s'épuise bien avant d'arriver ici. Plus jamais je n'aurai ce qui m'est dû. Quand même je collerai mon oreille contre terre, je n'entendrai pas le choc des vagues ou la respiration mesurée de la mer heureuse. Je suis trop loin de ce que j'aime et ma distance est sans remède. Je le hais pour avoir obtenu ce qu'il voulait. Moi, j'ai pour patrie ce lieu clos et épais où le ciel est sans horizon. Pour ma faim, l'aigre prunier de ce pays et rien pour ma soif, sinon le sang que j'ai répandu. Voilà le prix qu'il faut payer pour la tendresse d'une mère. Qu'elle meure donc, puisque je ne suis pas aimée. Que les portes se referment autour de moi, qu'elle me laisse à ma juste colère, car, avant de mourir, je ne lèverai pas les yeux pour implorer le ciel. Là-bas, où l'on peut fuir, se délivrer, presser son corps contre un autre, rouler dans la vague, dans ce pays défendu par la mer, les dieux n'abordent pas. Mais ici, où le regard s'arrête de tous côtés, toute la terre est dessinée pour que le visage se lève et que le regard supplie. Oh, je hais ce monde où nous en sommes réduits à Dieu. Mais moi, qui souffre d'injustice, on ne m'a pas fait droit. Je ne m'agenouillerai pas. Et privé de ma place sur cette terre, rejeté par ma mère, seul au milieu de mes crimes, je quitterai ce monde sans être réconcilié. Le dernier extrait, qui correspond à la fin de la pièce, rend compte de l'incompréhension entre Martha et Maria. Ces deux femmes qui ne parlent pas le même langage et qui rendent ainsi compte de l'incompréhension des vivants entre eux sur ce désert que nous nous partageons. La sentence du vieux serviteur qui prend la parole pour la première fois apparaît comme le couperet de la mise à mort du condamné. Maria dans les larmes. « Oh mon Dieu, je ne peux pas supporter ce langage. Lui non plus ne l'aurait pas supporté. C'est pour une autre patrie qu'il s'était mis en marche. » Martha, qui atteint la porte, se tournant brusquement. « Cette folie a reçu son salaire. Vous recevrez bientôt le vôtre. » Avec le même rire. « Nous sommes volés, je vous le dis. À quoi bon ce grand appel de l'être, cette alerte des âmes? Pourquoi crier vers la mer ou vers l'amour? Cela est dérisoire. Votre mari connaît maintenant la réponse, cette maison épouvantable où nous serons enfin serrés les uns contre les autres. » Avec haine. « Vous la connaîtrez aussi. Et si vous le pouviez alors, vous vous souviendriez avec délices de ce jour où pourtant vous vous croyez entrer dans le plus déchirant des exils. Comprenez que votre douleur ne s'égalera jamais à l'injustice qu'on fait à l'homme. Et pour finir, écoutez mon conseil. Je vous dois bien un conseil, n'est-ce pas, puisque je vous ai tué votre mari. Priez votre Dieu qu'il vous fasse semblable à la pierre. C'est le bonheur qu'il prend pour lui. C'est le seul vrai bonheur. Faites comme lui, rendez-vous sourde à tous les cris, rejoignez la pierre pendant qu'il en est temps. Mais si vous vous sentez trop lâche pour entrer dans cette paix muette, alors venez nous rejoindre dans notre maison commune. Adieu, ma sœur. Tout est facile, vous le voyez. Vous avez à choisir entre le bonheur stupide des cailloux et le lit gluant où nous vous attendons. » Elle sort, et Maria, qui a écouté avec égarement, oscille sur elle-même, les mains en avant. Maria, dans un cri. « Oh, mon Dieu, je ne puis vivre dans ce désert. C'est à vous que je parlerai et je saurai trouver mes mots. » Elle tombe à genoux. « Oui, c'est à vous que je m'en remets. Ayez pitié de moi. Tournez-vous vers moi. Entendez-moi. Donnez-moi votre main. Ayez pitié, Seigneur, de ceux qui s'aiment et qui sont séparés. » La porte s'ouvre et le vieux domestique paraît. Acte 3, scène 4. Le vieux, d'une voix nette et ferme.
« Vous m'avez appelé ?»«
Oh, je ne sais pas, mais aidez-moi, car j'ai besoin qu'on m'aide. Ayez pitié et consentez à m'aider. »
« Non. »
Enfin, un peu de pluralité avec ces voix nouvelles que nous réserve l'interview. Vous êtes bien sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire en compagnie d'Anna pour l'émission Tous en scène.
Bonjour Anna.
Alors aujourd'hui, dans le cadre de nos interviews du mois, nous vous recevons donc Éric Chartier, comédien formé à l'ENSAT entre 1967 et 1969, autrefois appelée École de la Rue Blanche et située alors à Paris au 21 de la Rue Blanche dans le 9e arrondissement. Je rappelle à nos auditrices et nos auditeurs que l'ENSAT, acronyme de École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, a été créée en 1941 sous le nom de Centre de Formation Professionnelle du Spectacle et est maintenant l'une des 11 écoles nationales de théâtre en France, située à Lyon depuis septembre 1997. Il s'agit donc d'un établissement public sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Dans cette école théâtre sont enseignés les métiers de comédien, administrateur, costumier, coupeur, directeur technique, écrivain dramaturge, metteur en scène, concepteur lumière, concepteur sonore, régisseur et scénographe. Et à ces enseignements professionnels s'ajoute un enseignement théorique transversal, art et humanité. L'établissement accueille près de 150 étudiants en formation initiale et 120 en formation continue chaque année. C'est dire l'importance de ce lieu. Alors, tout d'abord, Éric Chartier, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a conduit à suivre cet enseignement et à vous lancer dans cette aventure théâtrale en 1967?
Le désir de faire du théâtre m'a toujours habité, puisque ici, au Moutier, par exemple, il y avait un instituteur qui s'appelait M. Ménard, qui montait des spectacles, il pratiquait la méthode Freinet. C'était un événement chaque année pour la petite vie du bourg, côté laïque, hein, parce qu'il y avait les deux côtés. Il y avait le côté école, ce qu'on appelait libre, entre guillemets, puis l'école laïque. Là, j'ai commencé à jouer dans des pièces qu'écrivait ce professeur-là, voilà, cet instituteur de terrain. Voilà comment j'ai commencé. Puis alors il y a eu une coupure. Et puis, c'est un peu par le cinéma, c'est-à-dire c'est le jeu d'acteurs tels que James Dean ou Gérard Philippe qui m'ont impressionné, que l'on pouvait, par le jeu de l'acteur, produire quelque chose, quoi. Et cette production faite à partir de l'individu avait quelque chose d'assez stupéfiant pour moi. Et puis je me suis trouvé à faire une école de comptabilité. Et puis là, il y avait un professeur qui était un homme assez remarquable, qui s'appelait Frédéric Rey, qui était d'ailleurs écrivain lui-même, édité lui-même, dans le livre de poche même. Le contact a été fructueux avec lui, parce que lui aussi montait des spectacles. Et donc j'ai repris cette chose-là, et là ça a été absolument déterminant pour moi. Alors là on touchait à Racine, on touchait déjà au grand classique, là, à ce moment-là. Voilà. Et donc, après un peu une année ou deux de barbotage et de cafouillage dans la vie professionnelle, j'ai préparé le concours de la Rue Blanche que j'ai réussi, et puis là j'ai eu mes 3 années de formation à la Rue Blanche avec des professeurs qui étaient dans la tradition assez de Jouvet, des grands acteurs du 19e, et puis du cartel, c'est-à-dire Dulin, Jouvet, enfin toute cette classe, cette catégorie-là. Tous ces professeurs étaient là.
La Rue Blanche était déjà un tremplin pour intégrer ensuite le conservatoire.
Alors c'était où on se dirigeait vers une carrière plus, je dirais, moderne, où on se dirigeait vers plutôt l'idée de rentrer à la Comédie Française.
Très bien. Alors, c'est après ce passage à l'ENSTAT que vous débutez votre carrière professionnelle dans la compagnie de Jérôme Savary, mouvement Panique.
C'est la naissance du mouvement.
C'est la naissance. Alors, mouvement Panique qui tire son appellation du dieu Pan, fils d'Hermès et d'une nymphe, dieu des bergers dans la mythologie grecque et portant des cornes et des pieds de chèvre et dont la laideur extrême fera fuir sa mère horrifiée. Alors, ce mouvement actionniste met l'art de la performance à l'honneur. Et c'est à cette même époque que vous faites du cinéma avec des gens comme Georges Lautner, Stanley Donen et surtout Jean-Luc Godard.
Oui, un petit peu après. Un petit peu après cette époque-là. Oui.
Alors, en quoi cette époque, ces débuts, ont-ils été formateurs pour vous pour lancer dans les années 1980 ce qui vous appartient, c'est-à-dire ces spectacles littéraires, spectacles que vous proposerez en tournée durant une dizaine d'années dans plus de 100 universités américaines et canadiennes.
Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport entre les deux, n'est-ce pas, hein. Ce qu'on peut noter, c'est que, étant dans une école à tendance plutôt classique, et avec des enseignants qui étaient ou des anciens pensionnaires de sociétaires de la Comédie française ou des acteurs encore ou des metteurs en scène qui évoluaient dans cette sphère-là, je me suis retrouvé dans l'avant-garde avec une sorte de dépaysement brutal, mais je peux pas dire que j'en ai souffert ou rien du tout. Non, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup plu. Et Jérôme Savary était à ses débuts à cette époque-là.
Hein. Oui.
Et donc, il avait une espèce de fraîcheur spontanée dans ses idées de mise en scène. Et il y avait vraiment une force réellement artistique et quand même assez proche du surréalisme, assez proche du monde littéraire, en fait. Alors ça, j'ai été assez subjugué par cela, voilà, hein. Par toute cette époque-là de ça. C'était pas facile, c'était un théâtre d'avant-garde, ça marchait plus ou moins, mais ça a pris quand même. Voilà, donc c'était une autre école. Voilà. Après, Savary est devenu beaucoup plus dans ce qu'il appelait le Magic Circus. Alors là, si vous voulez, il est allé vers quelque chose qui était pour moi moins intéressant. Donc j'ai arrêté de travailler avec lui. Voilà.
Et donc c'est là que vous avez eu cette idée à commencer à...
Non, ce n'est pas encore à ce moment-là. J'ai écrit avec un compositeur, j'ai écrit une comédie musicale sur les fruits, les légumes, la nutrition, enfin, que j'ai joué ici d'ailleurs, qui était assez bien financée. Et ça m'a pris quand même quelques années pour cette chose-là, n'est-ce pas ? Puis j'ai fait beaucoup de films commerciaux, publicitaires, qui rapportait de l'argent, bien sûr. Voilà. Et puis alors, il y a eu le déclic. Quoi.
Et cette envie de partir aux États-Unis ?
Alors non, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que j'avais cette idée d'interpréter des textes littéraires, et j'ai commencé à prendre des textes tout seul, et bien, hein, mais je ne trouvais pas de répondant. Il n'y avait pas d'écho dans le métier, non. On ne comprenait pas très bien ce que l'on pouvait faire avec ça, à ce moment-là. Je restais sur mon idée, mais sans déboucher, quoi. Et puis, je me suis trouvé par hasard à New York un jour... C'était la nuit du jour de l'an. Alors, c'est toujours important en Amérique, des grandes parties dans les grands lofts, tout ça. Alors, je me suis trouvé en contact avec un groupe d'étudiants de Columbia, dans lequel il y avait Paul Auster, qui était un peu le leader de ce groupe de jeunes doctorants, hein, avec qui j'ai discuté de cela, sur cette question de l'interprétation orale de la littérature. Alors là, j'ai trouvé un écho. Et à ce moment-là, Paul Auster, qui était un peu le délégué de ça auprès du chef de département de Columbia, là, il m'a orienté sur ça. Et à l'époque, je commençais à répéter le voyage au bout de la nuit. Et donc, il m'a dit, ben, c'est bon, tu peux venir, on fixe la date dans un mois et demi, 2 mois, si tu veux. Et c'est programmé pour toi, tu viens. Et donc, j'ai répété, puis je suis revenu à New York à ce moment-là pour donner ce spectacle. C'était le 14 février 1981. C'est la première fois qu'on interprétait Céline sur scène. En plus, c'était le passage sur New York.
Oui.
Alors, c'était un peu dans le bain, quoi, hein. C'était vraiment... Oui. Et ça a eu son succès. Et ça a intéressé tout de suite beaucoup de gens. Alors, j'ai été invité à côté à Sarah Lawrence College, j'ai été après invité à New York University, puis boubouboubou, ça s'est comme ça répandu partout, tant et si bien que j'ai continué, quoi. Et puis, j'ai rencontré à l'Université de Chicago Mircea Eliade. Vous savez peut-être qui c'est, Mircea Eliade.
Il a écrit Le sacré et le profane.
Voilà, c'est le fondateur de l'histoire des religions, en fait.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et là, c'était ma première rencontre avec, je peux dire, un homme de génie. Alors, c'était un petit peu plus tard. Hein. Là, je me trompe un petit peu, mais enfin, il a beaucoup. Il a été, si vous voulez, très, très, comment dirais-je, conseiller, quoi. Hein. Parce qu'il connaissait la question du souffle. Il était yogi et il avait noté que j'avais une maîtrise du souffle, de l'écriture et que.
Ça donnait une respiration.
Voilà, alors c'était avec Proust là, à ce moment-là.
Oui.
Donc peu de temps après, j'ai été invité à une université que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelait Charlottesville, qui était l'université d'Edgar Poe, notamment, Jefferson University. Quoi. Et donc là, j'ai rencontré un homme qui allait jouer un rôle très important pour moi, il s'appelait Roger Chateuc. Il était considéré comme l'un des meilleurs Proustiens des États-Unis et très récompensé, hein, un très haut niveau. Et lui aussi venait d'écrire un article sur l'oralité de la littérature comme moyen d'enseignement. Alors, évidemment, hein, on avait beaucoup de choses à se dire. Et il avait une cinquantaine d'années à l'époque. Il avait eu le prix Pulitzer, notamment, sur un essai sur Proust. Et c'est lui qui m'a dit, je vous ai entendu maintenant dans Le voyage au bout de la nuit, est-ce que ça vous intéresse que nous abordions ensemble Proust et que je vous lise des passages comme ça, qui me plaisent moi, qui me paraissent... Donc on a fait ça pendant un mois et demi, deux mois, tout en se promenant dans les campagnes virginiennes. Et j'ai travaillé cela, bien sûr, et j'ai appris par cœur tout ça, j'ai fait mon découpage à moi, en m'appuyant un peu sur ce qu'il m'avait dit, mais pas uniquement, et puis je suis revenu donner le spectacle, d'abord à New York, et puis ensuite à Charlottesville, et à ma grande surprise, ce qui ressortait du spectacle, étonnamment, c'était le rire. Mais je ne m'y attendais pas du tout.
Le rire du public.
Oui.
Sur Proust.
Oui. Et Roger avait écrit une thèse, cette thèse qui avait eu le prix Pulitzer, c'était que Proust était l'héritier de Molière.
Très bien.
Et évidemment, quand il m'a entendu, alors il m'a dit, mais j'avais raison. Vous démontrez que j'avais raison. Que finalement, les situations chez Proust sont des situations moliéresques. Et c'est pour ça qu'on riait. Voilà, c'était... Et c'était une certaine... Évidemment, tout ça était entièrement nouveau à l'époque.
Oui, avec une description d'un milieu chez Proust oui. qui peut prêter effectivement...
Qui est ridicule.
Qui est tourné en ridicule.
Et voilà. Et donc, cet absurde, ce monde un peu absurde de ce personnage qui tourne selon des mécaniques... qui leur sont propres et qui sont folles, comme est fou le bourgeois gentilhomme ou l'avare. Hein. Alors, donc tout ça a été, j'ai pas pris trop conscience sur le coup que nous venions de faire quelque chose de nouveau. Voilà, donc après j'ai créé Madame Bovary, après j'ai créé l'histoire de la Révolution française de Michelet, et puis... Après, alors, une autre rencontre a été, après, très importante.
Toujours aux États-Unis ?
Alors, non. Alors, il y a eu Mircea Eliade, qui, lui, m'a dit, quand vous dites du Proust, c'est Proust qui respire. C'est la respiration de Proust.
Élogieux.
Très venant de la part d'un grand yogi et d'un grand philosophe et d'un grand historien des religions. Ben, oui, c'était quelque chose, hein, Mircea Eliade. donc tout ça était tout à fait encourageant, voilà. Et j'ai continué à tourner comme cela dans l'Amérique avec des rencontres formidables, voilà, partout, à Berkeley, à Stanford.
Des échanges avec de nombreux intellectuels.
Beaucoup, qui n'ont pas forcément eu des noms extraordinaires, mais qui étaient des grands professionnels dans leur domaine.
Et des gens qui étaient dans une volonté de s'interroger, d'interroger les textes et de donner à entendre ces textes.
Ouais.
Alors, À partir de 1988, vous vous installez au Château des Brefs à Pornic.
Ouais.
Et depuis maintenant 32 ans, vous diffusez chaque été des spectacles en ouais. partenariat avec la mairie de Pornic.
Pas en partenariat avec la mairie de
pas
Pornic.
Pas du tout. Alors.
Pas du tout. Non.
Donc, de votre propre initiative.
Oui, oui, entièrement.
Et
oui.
dans ce cadre magnifique, ouais. je trouve, avec la solennité des vieux chênes qui délimitent la propriété et qui offrent une ambiance fort mystérieuse, peut-être liée au fait que ce lieu de représentation prend place dans la grange d'un domaine abandonné qui a connu à d'autres époques Antoine de Saint-Exupéry et Albert Camus. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de ce lieu et ce qui vous a conduit à le choisir comme espace de représentation de vos créations?
Alors, là, en ce qui me concerne, n'est-ce pas, j'étais en Amérique, un petit peu quand même fatigué de tous ces voyages et des risques qu'il y avait, parce qu'il y avait... C'était pas toujours sûr d'arriver. À cette époque-là, les avions décollaient dans les tempêtes de neige, etc. Et j'ai frisé plusieurs fois la cascade. Alors, je commençais un petit peu à ralentir dans mon enthousiasme par rapport à tout ça. Et puis, étrangement, il y a eu comme un signe qui s'est présenté à moi. Je devais chercher de manière un peu inconsciente quelque chose de nouveau à faire. Et s'est présenté à moi ce lieu où j'avais grandi, dans lequel j'avais fréquenté, tout simplement parce que j'allais à l'école avec les enfants des métayers, des serviteurs, des palefreniers, enfin tout le petit monde qui vivait ici. Et donc, forcément, c'était un lieu qui m'était familier. Et l'importance du domaine en termes d'image m'avait tout de suite mis dans l'oreille des noms tels que vous venez de les citer, Gallimard, etc. etc. Mais j'avais un peu oublié tout ça, vous savez. Hein, après, la vie, Paris, tout ça... mai 68, le cinéma, tout ça... Non. Et puis là, d'un seul coup, ça m'est revenu. J'ai dit, mais tiens, c'est quand même curieux, ça. Je grandis près d'un lieu qui est marqué par l'histoire de la littérature, et puis, moi, je fais quelque chose dans le domaine de la littérature, purement de la littérature, hein, pas du théâtre, de la littérature. Théâtre, évidemment, mise en voix, mais... Ah. Et donc, je connaissais une ancienne servante, ici, que je suis allé voir et qui m'a orienté vers le propriétaire, qui était le seul survivant de toute cette famille. Ils étaient tous morts dans des conditions un peu tragiques. Et lui m'a dit, je ne veux pas vendre ce château, je ne veux pas y toucher non plus, je n'en fais rien. Alors je suis arrivé un peu comme quelqu'un qui va réveiller la belle au bois dormant, quoi. Ceci lui a paru une solution. Alors nous avions un projet à l'époque beaucoup plus vaste que le seul spectacle, si je puis dire, qui était un projet sur lequel je travaillais déjà depuis un certain temps, depuis presque le début d'ailleurs, c'était d'utiliser tous les outils informatiques en pleine évolution pour l'enseignement de la littérature, qui en reposant, s'appuyant sur l'oralité. Alors j'ai pu mettre dans le projet l'Université de Nantes, la formation continue notamment, et il y a eu là un pas de franchi, et la DRAC qui était très favorable, et a un peu entraîné la mairie de Pornic à faire une étude. Donc cette étude a été faite, elle a duré assez longtemps, et tout était à peu près bon, donc c'était parti. Et puis, il y a eu une espèce de levée de bouclier, un petit peu bizarre, un complot, on pourrait même dire. Et à ce moment-là, l'opposition à la mairie de Pornic s'est mise à se déchaîner contre ce projet sans lire l'étude. C'est une réalité, je ne mens pas. Alors, il y a eu des réunions publiques. Pour dénoncer ce projet fou, absurde, etc., rameutant toute une population, notamment la population agricole, qui était déjà méfiante. parce que c'était nouveau, quoi. Hein. Et donc, finalement, la cabale a pris. Et le maire de Pornic, pas très tranquille pour son élection, a préféré abandonner. Voilà, donc ça s'est arrêté là. Ça a coûté quand même 50 000 euros d'aujourd'hui, à peu près. Hein.
Et c'est à cette époque que vous avez rencontré Julien Gracq.
Alors, en même temps que tout ça démarrait, en 91, oui. je contacte Julien Gracq en 91 pour avoir les droits, il me les donne, il ne comprenait pas très bien ce que je voulais faire. J'ai répété tout l'hiver, hein, puis j'ai créé le spectacle ici, au mois de juillet 92, je ne me souviens plus la date exacte. Hein. Et puis, ça a été pareil, ça a été un peu un sujet d'étonnement. C'était encore une création. Hein. Alors, cette fois-ci, d'un auteur vivant. Voilà, donc, j'ai rencontré Julien Gracq vers le mois de septembre de 92, et j'ai donné le spectacle chez lui, où il était en compagnie de sa sœur. Voilà, et donc, ça a été assez étonnant.
Il est près d'Anceny, c'est ça ?
Saint-Florent-le-Vieil. Maintenant, c'est la maison Julien Gracq, tout ça. Hein. Et donc, Gracq a été séduit parce que la dimension théâtrale lui plaisait. Maintenant, c'était le tout début, vous savez, tout ça pouvait s'arrêter. Hein. Ben, il a été assez, d'abord, très, 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 très émotionné d'entendre son propre texte interprété. Mm-hmm. Et puis il était avec sa sœur qui vivait encore à ce moment-là, donc c'était qui était heureuse comme tout, et donc le bonheur de sa sœur lui avait énormément plu à lui aussi, parce qu'il adorait sa sœur.
Son texte, le balcon, donne beaucoup à voir visuellement quand on lit le texte.
Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Alors, donc ça se prête très bien à l'interprétation. C'est une partition musicale en réalité. J'ai créé La forme d'une ville. Hein. C'était La forme d'une ville, donc sur Nantes, sa relation avec la ville de Nantes, tout ça. Donc tout ça a fonctionné parfaitement bien. Hein. Oui, voilà.
Et donc ce texte a été joué ici.
Ici, mais je l'ai joué énormément. J'ai joué à Nantes, j'ai joué à Paris, j'ai joué à New York, j'ai beaucoup joué, bien sûr, oui.
Alors, si l'on considère que vos spectacles sont des voyages littéraires, vous dites, pour définir votre démarche artistique, dans un poème que l'on peut retrouver sur votre site, je vous cite. Le dire est une célébration de l'écriture, la page est partition, sur l'établi du métier, je la pétris éparse. Ouais. Alors, dans ce contexte que vous précisez, comment s'effectuent vos choix, puisque pour chaque écrivain présenté, vous offrez une lecture particulière en sélectionnant certaines parties de l'œuvre sur laquelle vous avez jeté votre dévolu. Alors je dis lecture particulière, c'est un véritable spectacle à chaque fois que vous proposez et non une lecture.
Oui, bien sûr. Oui. Oui. Il y a une filiation dans toute la littérature française. On part de Rabelais, et puis on passe par le cardinal de Ré, Saint-Simon. Flaubert, Balzac, il y a une filiation dans tout ça qui est propre à la littérature française et à la langue française. D'abord, c'est son émergence du latin. Il y a une racine commune à toute la littérature, c'est qu'elle vient du latin et que tous les écrivains étaient des latinistes, hein, jusqu'à Julien Gracq. Et donc, c'est dans cette filiation que j'ai puisé. Voilà. Alors, vous avez demandé.
Et ma deuxième question était davantage sur comment vous effectuez vos choix.
Les choix.
Vous avez choisi.
Ah oui, alors les choix, c'est beaucoup à l'intuition. Voilà.
Vous relisez le texte en entier, vous.
Plutôt,
vous,
oui,
vous
oui, bien sûr. Oui.
Vous...
J'annote pas vraiment. J'annote peut-être au dernier moment pour bien faire regrouper tout ça, mais dans un premier temps, je vois, ça va très vite, vous savez, ça va vite. Hein. Je vois tout de suite ce qu'il me faut, ce qu'il ne faut pas. Des fois, il faut faire des choix parce que ça ne dure que 1h20. Alors, on ne peut pas trop accumuler.
Ce choix d'1h20 vous oblige à proposer votre lecture.
C'est une adaptation, finalement.
Et vous emmenez, votre public dans sur un des versants de l'œuvre.
Voilà. Voilà, mais ce qui importe, c'est qu'on ouvre une fenêtre sur l'œuvre. Après, si vous voulez, c'est... Mais il y a quelque chose qui est identique. Et ça suffit pour faire découvrir l'œuvre. Parce que mon but, c'est
de
faire passer un bon moment, bien entendu. Oui, mais c'est faire en sorte que le spectateur devienne un éternel lecteur. Voilà.
Et reviennent goûter le texte.
Absolument, lui ouvrir cette fenêtre, lui donner les clés de la maison, de manière à ce qu'il y entre facilement. Quand on a les clés, on entre plus facilement que lorsqu'il faut forcer la porte.
Très bien. Ouais. Alors, restons sur cette belle image d'ouvrir la porte et de donner les clés au lecteur. Il me reste à vous remercier, Éric Chartier, pour ce temps que vous nous avez consacré pour nous éclairer sur votre démarche artistique. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent suivre votre actualité, je renvoie nos auditeurs et auditrices à votre site internet, Éric Chartier, eric-chartier.com en minuscule. Je rappelle également qu'en juillet et août 2021, nous pourrons vous retrouver à la Grange des Brefs pour suivre la 33e édition de
Absolument.
Voyage littéraire en compagnie de nouveaux...
On verra.
Très bien.
Oui.
Merci.
C'est moi.
Éric Chartier.
C'est l'heure du clin d'œil de la comtesse Rostropovitch sur Prune 92 FM.
Bonjour, très chères auditrices et auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver pour cette seconde saison de Tous en scène en compagnie d'Anna et de Jean-Pierre.
Bonjour, comtesse. Alors, vous êtes sortie de votre tanière ?
Oui, on peut dire cela ainsi. J'ai quitté ma caverne de l'été où je m'étais mise à l'abri du tumulte du monde pour mieux écouter à ma sortie les bruits et les sons qui nous envahissent au quotidien. Qu'il est difficile dans le monde actuel de se retrouver et de ressentir l'espoir dont parle Albert Camus dans cet extrait de son discours « L'artiste et son temps ». Faire resplendir la vérité que chacun élève pour tous. Voilà l'injonction de Camus. Chacun doit avancer en prenant conscience qu'il ne travaille pas pour lui seul, mais pour le collectif qui est en lui. Apprendre à s'oublier au profit du groupe. Faire taire en nous nos égotismes et s'engager dans la voie de l'union des énergies constructives pour le bien-être collectif. L'humanisme d'Albert Camus me bouleverse plus que jamais dans cette période de négation de nos libertés, au nom de la santé de ceux et celles que nous aimons, nous dit-on. Car il s'agit bien d'une sorte de prise d'otage que nous subissons. Nos États nous condamnent à obtempérer, à faire taire nos revendications face aux injustices liées au pouvoir de l'argent et de la reine mère qu'est la consommation. Ah, je suis très en colère, Jean-Pierre. Masqué comme vous, je tente de faire entendre ma petite voix pour donner la main symboliquement à toutes celles et ceux qui travaillent dans l'ombre et qui appliquent au quotidien la philosophie camusienne. Il faut imaginer. Sisyphe, heureux. Il me revient alors en mémoire ces derniers vers du cimetière marin de Paul Valéry. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Et je repense alors avec émotion à ce professeur de lettres qui nous avait présenté Paul Valéry comme l'un des derniers philosophes. Avait-il tort? Avait-il raison? Qu'importe? Tentons de vivre dans ces temps abjects que nous traversons et luttons avec pour seule arme notre sagesse intérieure contre la bêtise des dictats de ceux qui ont besoin de nous pour exister.
Eh bien, comtesse, ce n'était pas aujourd'hui le clin d'œil de la comtesse Rostropovitch, mais bien plutôt le coup de gueule de la comtesse Rostropovitch.
Ah, je vous laisse en compagnie d'Anna pour l'actualité nantaise.
L'actualité de la scène théâtrale nantaise dans Tous en scène, c'est l'agenda d'Anna.
Aujourd'hui, de 11h à 22h30 et demain dimanche, de 11h à 19h30, se déroule le troisième volet du festival Les scènes vagabondes, au parc du Grand Blottereau à Nantes, accessible en tramway ligne 1, arrêt Mairie de Doulon, et aussi avec les bus 12, arrêt Grand Blottereau et bus 87, arrêt Périne. Deux chapiteaux et deux scènes vous proposent d'alterner entre différents spectacles de musique, danse, art de la rue, spectacles pour enfants. Tout le programme est à retrouver sur métropole.nantes.fr. Également, ce mois-ci, vous pourrez voir au Théâtre du Grand T la dispute dont la conception et la réalisation reviennent à Mohamed El-Khatib du mardi 13 au jeudi 15 octobre et du jeudi 22 au vendredi 23 octobre à 20h, ainsi que le samedi 24 octobre à 17h30. On pense bien sûr tout de suite à la pièce de Marivaux, La Dispute, représentée pour la première fois le 19 octobre 1744 à la Comédie-Française. N'oublions pas que le mot « dispute » signifie avant tout « échange d'arguments contradictoires sur un sujet donné ». Chez Marivaux, dans cette pièce qui est l'une des dernières de son répertoire, il s'agit de décider lequel des deux sexes a donné le premier l'exemple de l'inconstance en amour. Et pour répondre à cette question, Marivaux tente une expérience factice, en isolant quatre enfants, deux du sexe féminin et deux du sexe masculin, dans une forêt, dès leur naissance, à l'abri du monde, pour éviter toute influence, quelle qu'elle soit. Au lever du rideau, les bébés, devenus de jeunes gens, sont confrontés au premier amour et l'expérience peut alors commencer. Chez Mohamed El-Khatib s'opère un changement de décor, puisque ce sont six enfants de 8 ans qui s'adressent à leurs parents, en leur exposant leur point de vue sur la rupture conjugale parentale qu'ils subissent et sur ce que cela leur procure comme bouleversement de se retrouver au cœur de disputes amoureuses. Ils livrent ainsi leurs ressentis alors qu'ils se retrouvent comme pris en otage malgré eux. La scénographie, faite d'un habile assemblage de Lego, souligne bien l'aspect étrange des relations amoureuses qui se font et se défont sans cesse au rythme des tourbillons de la vie. Il faut donc se laisser tenter par ce voyage familial d'une heure, scandé par la parole des enfants. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Tous en scène, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier Éric Chartier pour ce voyage à travers le monde et la littérature qu'il nous a proposé. Et je vous engage grandement à venir l'écouter dès le mois de juillet 2021 à la Grange des Brefs, située non loin des Moutiers-en-Ré et de la chapelle de Prigny sur la départementale 67. Je voulais aussi remercier Jean-Pierre qui a bien voulu se prêter à la lecture du personnage de Jean dans Le Malentendu d'Albert Camus et qui travaille dans l'ombre à la réalisation de cette émission. Et également un grand merci à toute l'équipe de Prune 92 FM. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur www.prune.net. On se retrouve samedi 11 novembre 2020 de 12h à 13h pour une nouvelle émission de Tous en scène qui sera cette fois-ci consacrée à Marguerite Duras. À suivre sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire, l'émission 100 ans de cinéma. Belle journée et très bon week-end à tous. Time, he flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Time, in quaaludes and red wine, demanding Billy Dolls and other friends of mine. Take your time, the sniper. Victim, you just scream with boredom. You are not evicting time.